RCF. Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne change le monde avec design, avec créativité, avec innovation, avec passion. Chaque semaine, découvrez les entreprises qui font la richesse de notre territoire.
Nous sommes aujourd'hui avec Augustin Montousset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'Enedis Loire, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Qu'est-ce qu'on met derrière cette expression gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, Augustin Montousset?
Ben écoutez, c'est le gestionnaire donc qui pilote, développe, modernise un réseau de distribution en fait qui est à la jonction entre le réseau de transport et tout un chacun, on va dire sur 95% du territoire national et 100% dans la Loire hein, qui raccorde et permet d'alimenter tous les clients, en l'occurrence 450 000 clients environ dans la Loire, et quelques milliers de producteurs, puisque le réseau raccorde, finalement, permet à la plupart des producteurs d'énergie renouvelable d'injecter, finalement, leur production sur le réseau.
Enedis, c'est quoi? C'est une DSP, une délégation de service public? C'est un service public? C'est une entreprise privée? Augustin Montousset.
Alors Enedis, c'est justement une filiale à 100% DDF. C'est une entreprise, donc, on peut dire public, hein, même si c'est une société anonyme, c'est une entreprise de service public avec des valeurs, on va dire, un ADN complètement de service public et qui exploite et développe et modernise un réseau qui appartient aux collectivités. Et notre interlocuteur, qui est le concédant, c'est le CIEL, un syndicat des énergies de la Loire, bien connu. Et donc, nous sommes concessionnaires, investisseurs, donc nous exploitons, développons à nos risques et périls, un réseau, mais en parfaite concertation avec les collectivités.
Il y a quelque chose au sujet des énergies dont on parle de plus en plus, c'est le mix énergétique. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de mix énergétique?
Mais en fait, c'est la composition des moyens de production qui permettent d'aboutir finalement à ce qui est nécessaire pour satisfaire les besoins électriques. Alors le mixte, alors pour le coup c'est pas notre domaine, hein, on est dans le domaine de la production, mais c'est bien de l'avoir en tête. Il y a un grand nombre de producteurs. J'ai cité le principal évidemment, et donc le mix énergétique c'est l'énergie d'origine nucléaire, les énergies photovoltaïques, éoliennes, hydrauliques bien entendu, qu'on classe ces trois dans les énergies dites renouvelables, et puis enfin il y a les énergies thermiques à flamme à base de fuel, gaz et hélas charbon.
Et alors chaque pays a son mix, un petit peu la situation en France aujourd'hui. Quelle est la part, la représentation de chaque énergie dans ce mix énergétique en France?
Alors là encore, c'est pas mon domaine puisque nous distribuons finalement l'énergie sans se préoccuper de sa provenance, on va dire, tout en cherchant évidemment à pouvoir augmenter la capacité d'accueil des énergies renouvelables, hein, puisque ça c'est le gros enjeu de la transition énergétique. Alors je voudrais simplement rappeler qu'on est face à une urgence climatique, hein. Ça a échappé à personne malheureusement avec cet été, et donc on a la nécessité, un impératif absolument crucial de faire évoluer finalement nos modes de production et de consommation. Actuellement en France, on est à 60 à 75% de production d'origine nucléaire. Et il subsiste, en plus des énergies dites renouvelables, quand même un certain pourcentage, variable selon les années, d'énergie thermique à base d'hydrocarbures. Donc l'idée, c'est de faire évoluer finalement ce mix énergétique pour pouvoir se passer des énergies émettrices de gaz à effet de serre. Et donc, on va vers à la fois une évolution du mix et une évolution des usages qui vont vers la décarbonation. Et c'est là où Enedis se retrouve finalement à la croisée des chemins, mais se retrouve comme le moteur finalement de la transition énergétique et écologique, puisque on a l'impératif, nous, d'accueillir ces énergies renouvelables qui sont locales, qui sont décentralisées, photovoltaïques, éoliennes, hydrauliques aussi, hein, c'est le cas de la Loire, on est quand même déjà bien pourvu, et puis accueillir aussi et gérer finalement, aider les utilisateurs à mieux gérer les nouveaux usages, notamment la mobilité décarbonée.
On peut choisir ce qui passe dans les câbles, Augustin Montoussé. Si par exemple, un fournisseur d'électricité nous vend de l'électricité verte, est-ce qu'on est sûr à 100% que tout ce qui arrive, finalement, provient d'énergies renouvelables ?
Nous ne choisissons pas. En fait, on accueille...
Bien sûr, vous accueillez tout le monde.
Voilà, on accueille tout le monde. C'est vraiment le principe du service public, hein, égalité de traitement, neutralité. Donc, le gros enjeu qui a été le nôtre, c'est de permettre à tout un chacun de pouvoir se fournir, de pouvoir avoir un contrat avec le fournisseur de son choix. Il y en a une soixantaine actuellement. Ils ont des offres variées. Et je dirais, nous, notre enjeu est qu'on a mis en œuvre, enfin, qu'on a atteint à travers le compteur Linky, c'est de permettre à tous les fournisseurs de proposer à leurs clients des offres qui correspondent finalement à la fois à leurs besoins et puis à la fois à leur portefeuille et à leur mix énergétique justement. Et de pouvoir ainsi inciter leurs clients à consommer au moment où eux produisent. Et ça, c'est ce qu'on a toujours connu, heure creuse, heure pleine. Sauf que par le passé, c'était EDF qui pouvait proposer ça, hein, dans le système intégré qu'on connaissait. Maintenant, on a un système ouvert à la concurrence et le compteur Linky, il permet à tous les fournisseurs de proposer ça. Deuxième chose, ce compteur aussi permet aux gens de connaître et de maîtriser leur consommation, hein, de la connaissant, de mieux la maîtriser. D'éviter, de la limiter, voire de la décaler. Et c'est particulièrement important pour éviter justement les pointes.
Alors vous parlez d'heure pleine, heure creuse, de décaler sa consommation d'électricité. Au Royaume-Uni, par exemple, les consommateurs britanniques vont bientôt être incités à laver leur linge et utiliser tout ce qui est énergivore en heure creuse pour éviter les coupures de courant. Là aussi, en France, on peut être amené à inciter de plus en plus à consommer en heure creuse.
Oui, consommer quand il y a de la production, de façon à éviter d'avoir à placer des moyens de production dits de pointe, hein, qui sont essentiellement à base de gaz. Hein. Concrètement, le moyen de pointe actuellement, c'est les turbines à combustion gaz. Donc l'idée, c'est effectivement de consommer au plus près de la consommation, et c'est d'ailleurs dans un esprit circuit court un peu, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on assiste actuellement à un développement d'autoconsommation que le compteur Linky a facilité et qu'il a rendu plus économique, hein, puisque l'installation recourant au compteur Linky, il permet de mesurer à la fois la consommation et la production de manière simplifiée.
Parce qu'en 30 secondes, Augustin Montoussé, on ne peut pas stocker de l'énergie, de l'électricité pour la réutiliser plus tard.
Ben, on peut la stocker, mais c'est extrêmement coûteux. Donc on l'a toujours fait avec notamment les stations de turbinage-pompage. Hein. On l'a donc les formes de barrages en haut et en bas, de réservoirs. Donc ça, c'est classique. Après, on connaît tous les batteries. Il y a d'autres systèmes, mais globalement, c'est toujours beaucoup plus coûteux que de consommer... au moment où c'est produit, voilà.
Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF.
Augustin Montoussé, vous êtes le directeur d'Enedis Loire, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Avant de parler de ce qui attend Enedis dans les années à venir avec les événements climatiques, etc., j'aimerais juste qu'on essaye un tout petit peu de résumer l'équation en une minute, si c'est possible. C'est-à-dire qu'on a par exemple EDF qui va produire de l'électricité via des centrales, Enedis qui amène le courant jusqu'à un certain point. Où est-ce que les distributeurs reprennent la main? Comment tout cela s'organise et se gère, Augustin Montoussé?
Alors, bon, vous avez parlé d'un fournisseur historique. Il y en a d'autres. Hein.
Bien sûr.
Et puis, il y a entre la production, les grosses centrales et Enedis, il y a le réseau de transport, qui est en charge de l'équilibre production-consommation et donc qui est en charge du système électrique. Donc ça, c'est un point important. Je pense qu'on sera amené à en reparler à l'approche de l'hiver. Enedis, donc, vient récupérer le courant à travers un maillon essentiel qui est le poste source. Donc il y en a une quarantaine dans la Loire. Hein. Ce sont des grosses installations qui sont à la jonction entre le réseau de transport maillé au niveau de l'Hexagone et d'ailleurs qui est interconnecté avec les autres pays, hein, la maille d'une plaque électrique. Donc c'est le maillon, en fait, le point de jonction entre le transport et puis la distribution après qui va cheminer, on va dire, jusqu'au fin fond de nos campagnes acheminer le 20 000 volts et ensuite le 400 volts en moyenne basse tension.
Par exemple, le président Macron l'a dit très vite, hein, la France livrera du gaz à l'Allemagne, l'Allemagne livrera en gros de l'électricité à la France. Ça sera jusqu'à au point où Enedis reprend finalement la main jusque dans nos campagnes. C'est à peu près ça, quoi.
Bah là, disons qu'on assure notre rôle et le RTE, le transport, aura aussi sa responsabilité. Et nous, Enedis, nous sommes opérateurs, en dernier, on va dire opérateurs, d'un certain nombre de consignes qui seront données par le gestionnaire du réseau de transport.
Donc quand on parle de risque de coupure à l'hiver, ce n'est pas vous qui décidez de ces coupures-là ?
Absolument pas. Donc on exécute, on met en œuvre la manière la plus responsable possible en s'y préparant évidemment dès maintenant, en respectant évidemment quelques consignes, notamment un certain nombre de clients dits prioritaires, dont la liste pour le coup est fournie par l'État, par la préfecture en fonction
des
critères.
Les hôpitaux par exemple ou des choses comme ça ?
Exactement.
Alors c'est vrai qu'on parle de l'hiver, on a vu cet été des événements climatiques forts, on a vu que, bon on ne sait pas encore pour cet hiver, mais il y avait de l'orage hier encore, c'est de plus en plus régulier. Il faut un réseau qui tienne le coup face à tout ça, Augustin Montoussé ?
Ah ben absolument, donc là, notre première responsabilité c'est évidemment de garantir un courant de qualité au quotidien, hein, jusque, bah, je le disais, au fond des campagnes, donc avec une approche de solidarité et de cohésion territoriale, donc une qualité, on va dire, comparable dans une situation donnée entre ville et campagne, pour tout le monde et au même prix, et un réseau résilient. Donc c'est pour ça qu'on va se projeter avec des cabinets, des bureaux d'études, on va dire, extérieurs, on va vraiment, des climatologues spécialistes, on va étudier tous les scénarios possible d'évolution du climat dans les 30 ans à venir, 30-40 ans, puisque le réseau il est construit pour durer à minima 40 ans. Donc on va voir comment tout ça évolue et comment adapter le réseau et le rendre résilient à ces problèmes de canicule, de neige collante, d'événements climatiques, on va dire, un peu catastrophiques.
Et alors comment on fait justement ? On a par exemple des lignes qui sont de plus en plus enfouies sous terre. C'est une bonne solution, ça, de les enfouir ?
Alors c'est une solution avec des limites. La limite, c'est première limite, c'est le coût. Ensuite, l'exploitabilité, parce que pour les dépanner, c'est évidemment moins facile que quand on voit les fils qui sont au-dessus de nos têtes. Donc mais ça a évidemment des avantages. On ne peut pas le faire partout, parce qu'il y a aussi des endroits où le relief et la nature des sols n'est pas propice, hein. Donc il y a un équilibre à trouver à chaque moment. Donc dans la Loire, spécifiquement, on a identifié des zones particulièrement exposées aux aléas, notamment les zones très boisées et puis avec du relief. Donc on va s'attacher justement à sécuriser, à désensibiliser un petit peu ces zones pour les rendre le réseau encore plus résilient. Ça, on le fait en relation avec le ciel, évidemment, en discussion avec eux dans le cadre de programmes d'investissement de long terme.
Dans la distribution d'eau, c'est environ 20 mètres cubes d'eau qui sont perdus via des fuites sur le réseau de tuyaux, hein, par foyer à peu près. Est-ce qu'avec l'électricité, on perd aussi un peu d'énergie entre la production et, le consommateur final ?
Alors tout à fait, c'est ce qu'on appelle les pertes techniques. Et ça, ce ne sont pas des pertes au sens de fuite, mais c'est intrinsèquement lié au transit, on va dire, de l'électricité. Donc c'est l'effet joule, puis il y a accessoirement un effet fer, en fait, hein. Donc on a quelques pourcents du transit, 2 à 3%, qui sont un petit peu inéluctables, mais qu'on cherche par des calculs et des matériels adaptés à évidemment à réduire. Donc ça, c'est aussi un engagement dans notre trajectoire de réduire ces pertes techniques. C'est un engagement qui est totalement en phase avec notre trajectoire zéro carbone à horizon 2050, puisque nous faisons un bilan carbone depuis maintenant 2 ans, un bilan annuel qui est régionalisé et qui nous permet d'appréhender tous les paramètres sur les 3 scopes, tous les paramètres de finalement notre empreinte et nos émissions carbone pour les maîtriser et les réduire.
Justement, un objectif, celui de la neutralité carbone en 2050, ça commence où, ça, dans le travail d'Enedis, Augustin Montoussé ?
Ça C'est au quotidien. Donc, quand on conçoit une ligne, on va chercher à réduire les pertes, évidemment, à la faire au plus juste. Donc, ça, c'est le premier. C'est historique. On l'a toujours fait. Et puis, progressivement, il y a évidemment l'électrification de notre parc automobile, hein, avec 20% de notre parc qui est déjà électrifié, pour notamment s'insérer dans les zones faibles émissions, hein, en particulier à Saint-Étienne. Il y a avec des partenaires aussi, et je cite d'ailleurs un partenaire à Roche-la-Molière qui a prototypé pour nous un groupe électrogène zéro émission. Vous savez que soit pendant les travaux, soit à l'occasion d'incidents climatiques, on est amené à utiliser des groupes électrogènes pour réalimenter les clients, éviter qu'ils soient coupés. Et ils sont actuellement majoritairement diesel. Et là, on a, grâce à ce fournisseur, un groupe qui nous permet de travailler, de faire des travaux sur le réseau en coupant le minimum de clients. C'est une grosse batterie, en fait.
Zéro émission, voilà, c'est ce que j'allais dire, comment ça marche. On a une éolienne, un panneau solaire juste au-dessus de la batterie, comme vous disiez.
Alors, c'est une grosse batterie lithium-ion qui est dimensionnée et qui fonctionne comme un groupe électrogène qui se coupe sur le réseau. On a aussi des prototypes à base d'hydrogène, puisque l'hydrogène est tout à fait intéressant comme alternative, hein, au combustible fossile. Donc hydrogène et pile à combustible, là aussi on est, on va dire, acteur de cette transition énergétique et écologique.
Alors, un peu un avis personnel, parce qu'on le sait que vous n'êtes pas, concerné en tant que directeur d'Enedis, mais l'Agence internationale de l'énergie atomique estime la situation à la centrale de Zaporijjia intenable et réclame l'établissement d'une zone de sécurité. Évidemment, en France, on n'en est pas là, mais c'est un contexte particulier, je l'ai dit. Mais est-ce que c'est viable de se baser sur cette ressource, ou est-ce que aussi Enedis, avec les partenaires historiques de producteurs d'électricité, cherche d'autres moyens de produire de l'électricité dans les années 2050, par exemple?
Tout à fait. Alors là c'est plus dans notre champ de responsabilité, l'avez bien compris. À ce stade, les ruptures technologiques, on pense évidemment à la fameuse fusion, hein, la fusion nucléaire, l'énergie du soleil, ça fait un peu rêver. Ce qui est certain, c'est que la transition énergétique, elle va passer par la décarbonation. Elle est incontournable et ça va passer par l'électrification des usages. Donc notre responsabilité, c'est vraiment d'accompagner cette transition. Il y a un double mouvement, enfin même trois, hein, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc faire évoluer le mix. C'est développer les énergies renouvelables, hein, qui prennent le relais. Et puis, il y a aussi une notion de réduction de la consommation. Alors, on l'appelle, c'est la réduction choisie, hein, c'est la sobriété, finalement, délibérée et consciente.
Augustin Montousset, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur d'Enedis Loire, et gestionnaire de la distribution du réseau d'électricité. Augustin Montousset, merci beaucoup.
Et puis, merci.
Bien sûr, on se dit à la prochaine,
pourquoi pas. À la prochaine, très volontiers.
C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne, ville UNESCO de design et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.